Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Autour de la table, il y a Chantal Matelet pour les catholiques, il y a Jean-Pierre Dubreuil pour le cercle laïque, il y a Catherine Bianchi pour les protestants et puis Fatna Tari pour les musulmans. Merci d'être à Radio Grand Ciel pour cette émission Mosaïque pour laquelle aujourd'hui nous allons poser les questions que les uns et les autres se posent sur les autres. Il s'agit de faire tomber les préjugés en demandant, mais au fait, ce geste, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est une bonne chose de faire tomber les préjugés par un peu plus de connaissances. Madame Tari, vous vouliez nous parler aujourd'hui encore de la mosquée.
Oui, on avait parlé de l'architecture, juste pour rappeler à nos auditeurs, l'architecture c'est selon les pays et selon les cultures et selon l'histoire, il n'y a pas une architecture type. Par exemple, ici en France, on n'est pas obligé de mettre un minaret pour identifier une mosquée. On peut très bien se passer de minaret puisque les heures de prière sont identifiées par des horaires, par différentes manières. Et donc, quand on voit un minaret sur certaines mosquées, c'est vraiment que la communauté a voulu en mettre un, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, il y a des points communs à toutes les mosquées, c'est le minbar, qui est la chaire d'où l'imam va faire son prêche, son serment. Et il y a le mihrab, qui est la niche qui indique la direction de la Mecque et donc, par conséquent, la direction de la prière. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Sinon, quelles sont les règles et l'éthique à observer quand on va dans une mosquée ? Alors pour les musulmans, quand on se rend généralement dans une mosquée, c'est pour y faire la prière, comme je disais, c'est le lieu de prière, d'adoration. Donc on doit être en état de pureté, en état d'ablution. Si on ne l'est pas, il y a un endroit qui est dédié aux ablutions. Donc on a des toilettes, lavabos, fontaines, enfin de l'eau qui nous est proposée. Pour les hommes, il n'y a pas une tenue spécifique. Ils sont tenus d'être décents dans leur tenue vestimentaire. Pour les femmes, pour les musulmanes en tout cas, qui se rendent pour la prière, elles aussi, elles doivent porter une tenue décente, c'est-à-dire pas transparente ni serrée qui marque les formes, bien sûr. Elles doivent porter un foulard, puisque pendant la prière, c'est la tenue à observer, donc porter le foulard. On ne doit pas rentrer avec ses chaussures, ça c'est pour garder le lieu propre, ce n'est pas une obligation, c'est pas que la mosquée est un lieu saint par excellence, c'est juste pour que le tapis sur lequel on prie reste le plus propre possible. Donc on est tenu de retirer ses chaussures pour y accéder.
Alors pour les autres, par exemple, il y a une conférence et la conférence a lieu à la mosquée.
Alors si la conférence a lieu vraiment dans la salle de prière, on demande aux personnes de retirer leurs chaussures, toujours dans ce souci de propreté. Si c'est dans une autre salle qui est adjacente, parce que bien souvent dans les enceintes des mosquées, on peut avoir plusieurs salles. Il y a la salle qui est dédiée spécifiquement
au
culte, à la prière, et il y a des salles de classe ou des salles où on peut donner des conférences. Et dans ces salles de classe ou conférences, s'il n'y a pas de moquette, on peut tout à fait garder ses chaussures. Si on est une femme non musulmane qu'on vient assister à la conférence, on n'est pas non plus tenu de porter un foulard comme certains pourraient l'exiger. On n'est pas tenu puisque on n'est pas musulman, on n'est pas musulmane, on vient pas pour prier. Donc on vient pour écouter une conférence, pour se cultiver ou par curiosité. Donc on n'est pas tenu d'observer ces obligations pour les fidèles.
Quand vous dites les gens viennent à la mosquée pour la prière, elle a lieu une fois par jour ou c'est...
Il y a 5 prières par jour. Il y a celle du matin qui est avant le lever du soleil. Et il y a celle du zénith, à cette période, c'est vers 13h45. Il y a celle du milieu de l'après-midi. Là, c'est vers 17h ou un peu moins de 17h, 16h45. Et il y a celle du coucher du soleil. Et il y a 1h30 après, celle qu'on dit du Isha, donc du soir. Donc, c'est 5 prières quotidiennes.
Les personnes ne viennent pas pour les 5 prières à la mosquée.
Tout dépend de l'emploi du temps des personnes. C'est surtout les hommes. moins pour les femmes. Les personnes qui ne travaillent pas et qui habitent à proximité d'une mosquée, elles vont s'y rendre pour les 5 prières. Celles qui travaillent, bien malheureusement, elles sont au travail, elles ne peuvent pas se rendre à la mosquée, sauf si elles sont tout proches d'une mosquée et c'est pendant leurs horaires de pause et qu'ils peuvent s'arranger. Sinon, celles qui sont fortement recommandées pour tout musulman, c'est vraiment celle du matin, donc la toute première, et celle du soir. Généralement, les gens, ils sont chez eux.
Ils viennent à la mosquée chaque matin et chaque soir.
Voilà, chaque matin et chaque soir, et comme je disais, s'ils le peuvent pour chaque prière. Je prends l'exemple de mon papa qui est retraité, il y va pour chaque prière. Donc il y a des petits groupes, c'est plus ou moins important le groupe, parce que bon, selon l'affluence. Et la prière du vendredi, qui est la prière de la semaine, qui rassemble là vraiment le plus de monde possible. Et quand les personnes, enfin les hommes ne travaillent pas, ils s'y rendent, c'est une obligation. Et puis, pour les prières toujours dans la mosquée, il y a les prières des deux fêtes de l'Aïd. La fête de la rupture du jeûne du mois du Ramadan et la fête de l'Aïd qui arrive pendant la période du pèlerinage, qui est la grande fête qui rappelle le sacrifice d'Abraham avec le mouton. Donc ces fêtes-là rassemblent autour de la prière à la mosquée vraiment l'ensemble de la communauté. Et là, il n'y a pas de distinction. Tout le monde est invité à s'y rendre. On se retrouve donc les hommes de leur côté, les femmes, les enfants, ceux qui sont malades, qui peuvent s'y rendre, les femmes qui sont en période de menstrue, qui ne peuvent pas en principe aller à la mosquée pour prier et qui ne prient pas d'ailleurs pendant leurs règles, même pendant ces prières de fête.
Est-ce qu'elles sont considérées comme impures ou bien...
C'est pas qu'elles sont considérées comme impures, c'est un état dans lequel on ne prie pas, on ne jeûne pas non plus, parce que bon, quand une femme est en règle, elle perd du sang, hein, je n'apprends ça à personne. Donc on manque de fer, on est un petit peu affaibli quand même par rapport à la période normale et donc on est exempté de jeûner. Mais on rattrape le nombre de jours qu'on a mangé par la suite. C'est pas un état d'impureté puisque ça fait partie de la physiologie, ça fait partie de la femme, hein, et donc c'est vraiment un temps de repos. En tout cas moi en tant que musulmane et en le pratiquant, je considère vraiment que c'est un temps de repos et non pas un état d'impureté comme on voudrait le faire.
Je vais vous poser une question. J'ai tout bien compris, mais je vois que les gens qui se rendent à la mosquée, les hommes, c'est pas tous les hommes, même parmi les hommes qui ne travaillent pas, et que les femmes, c'est encore moins. Est-ce qu'elles sont considérées comme des mauvaises musulmanes ? Moi, je connais des femmes musulmanes qui se disent croyantes et pratiquantes et qui ne vont pas régulièrement à la mosquée.
Non, on n'est pas moins croyante en n'allant pas à la mosquée, non, non. Et d'ailleurs, il est dit que pour la femme, il est préférable de rester chez elle pour prier, mais parfois quand on reste chez soi, si on est érudit en religion et qu'on peut se satisfaire de son savoir, donc on prie chez soi, en tout cas pour la femme. Si on n'a pas suffisamment de connaissances et notamment pour les prêches, donc il est préférable d'aller à la mosquée pour s'enrichir, pour acquérir un savoir. Mais ça n'est absolument pas... on n'est pas pour autant moins croyante ou moins musulmane qu'une qui serait fervent, enfin, qui serait toujours à la mosquée. Pour les hommes, eh bien, c'est la foi, comme on dit, elle est en dents de scie. Parfois elle est haute, parfois elle est basse, parfois on va aller plus à la mosquée, parfois on va moins y aller. Et puis bon, il y a des contraintes dans notre société qui ne facilitent pas toujours l'accès à la mosquée, aux prières, en tout cas quotidiennes.
C'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire que les femmes ne se rendent pas à la mosquée globalement. Alors que dans l'Église catholique, si on enlevait les femmes de l'Église, on pourrait fermer la boutique, hein.
Non, oui, tout à fait. Tout à fait. Plus de femmes qui vont aux offices que des hommes, effectivement.
Quelque part, c'est intéressant de percevoir ça.
Par contre, j'ai une question à poser. Moi, j'ai un petit garçon qui est venu devant l'église du quartier où je vais régulièrement. Et il regardait par la fenêtre. Et moi, je lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, rentre. Ah non, je suis musulman, je n'ai pas le droit, etc. Je voulais savoir... Pour un musulman, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans une église ou est-ce que... C'est quelque chose d'erroné.
Là, pour le petit garçon, ça dépend de son âge, mais c'est souvent une mauvaise interprétation des parents. Parce que s'il s'est comporté de la sorte, je pense davantage que ça doit venir de ses parents, de l'éducation qu'il reçoit, de l'instruction qu'on lui inculque au sein du foyer. Mais ça n'est absolument pas interdit de rentrer dans une église, dans une synagogue, dans un temple. Bien entendu, on ne va pas s'adonner à la prière avec à la messe ou autre prière. Mais on peut tout à fait rentrer, visiter, s'asseoir tout simplement pour être au calme. Parce que bon, dans une église, pour y être entré à plusieurs reprises, il y a quand même un calme, une sérénité. Et donc, on peut tout simplement s'asseoir et se recueillir. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, qui était le troisième calife, quand il était allé à Jérusalem, on lui avait proposé de faire la prière au sein de l'église et il avait refusé. De crainte, non pas qu'il ne voulait pas parce que c'était une église, mais de crainte que les compagnons n'en fassent une obligation et s'accaparent ce lieu de culte qui était dédié aux chrétiens. Donc, par respect pour les chrétiens, il a fait sa prière à l'extérieur, mais ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas. Bien sûr, si on est en voyage et qu'il n'y a pas de mosquée, qu'on ne peut pas faire la prière ailleurs que dans une église où on peut nous accueillir, on peut tout à fait la faire et ça n'empêche pas... Oui.
Une petite question. Vous parlez de prière, donc les gens viennent, rentrent dans la mosquée pour prier, mais... Il y a quand même un imam, il fait des prédications chaque jour ou c'est un jour de la semaine, uniquement le vendredi?
Alors l'imam fait son prêche le vendredi, à la prière du vendredi, Salat Jamoa. Mais à chaque prière, par contre, il y a l'imam qui conduit la prière. Il n'y a pas forcément un prêche, souvent il fait un prêche, un petit sermon... quand on lui pose des questions, il peut répondre, mais ce n'est pas une obligation comme la prière du vendredi qui diffère des autres prières quotidiennes. C'est vraiment différent. Mais les prières quotidiennes, il n'y a pas de prêche spécifique. À l'inverse du vendredi et à l'inverse des prières, comme je disais, des jours de fête, des deux fêtes de l'Aïd. Là aussi, c'est spécifique. Mm-hmm. Ça ressemble plus à la prière du vendredi où vraiment c'est en communion, en communauté et un nombre beaucoup plus important que les autres.
C'est un autres... temps fort.
Voilà. Bon, et bien, on va faire une petite pause avant de poursuivre. Ah, pardon.
Je veux dire que le rite me semble très simple comparé au rite catholique avec toute une liturgie qui change tous les 15 jours, enfin 3 mois, pendant l'Avent, après
Noël. Oui, il y a un calendrier liturgique, effectivement.
Calendrier liturgique avec, c'est plus complexe. Là, ça me semble très simple.
C'est très simple parce que c'est pratiquement tout le temps la même chose, en fin de compte. Il y a aussi les prières surérogatoires qu'on fait pendant le mois de Ramadan. Donc, après la rupture du jeûne, il y a la prière du coucher du soleil. Et ensuite, il y a des prières surérogatoires. Là aussi, le nombre, par contre... augmente le nombre de génuflexions et de prosternations. Bon, ça augmente, le temps est plus long, mais c'est uniquement pendant le mois du Ramadan. En dehors de l'année, il n'y a pas ces prières surérogatoires.
Eh bien, nous allons faire une petite pause avant de poursuivre.
Si tu me demandes qui est mon Dieu, qui me donne la force d'être si heureux, si tu me demandes qui est mon Dieu, c'est le Créateur des cieux, c'est le Créateur des cieux.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين.
Si tu me demandes quel est mon livre, celui que je tiens dans la main, si tu me demandes quel est mon livre, c'est celui qui montre le chemin, le Coran, le livre
saint. وحوى النور المبين.
toujours dans l'émission Mosaïque. Alors, comment ça se passe chez les protestants ?
Alors, chez les protestants, nous avons un culte chaque dimanche qui suit une liturgie, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, des temps de l'Église. Les temps forts de l'Église étant Pâques, Pentecôte, Noël. Il n'y a que la liturgie qui change finalement, et ce sont des rencontres qui ont lieu chaque dimanche, qui sont ouvertes à tous. N'importe qui peut venir assister au culte. Donc, généralement, les horaires sont affichés devant chaque lieu de culte.
Est-ce qu'il y a un vêtement spécifique pour le pasteur ou pour celui qui préside le culte ?
Alors, non, il n'y a pas de vêtement spécifique. Un pasteur, une personne qui est reconnue pasteur, a fait un cursus universitaire de 7 années. Et dans notre église, il y a une commission du ministère au niveau national et régional, surtout au niveau national, qui rencontre la personne pour savoir s'il est apte à devenir pasteur, non pas par ses études, mais par ses idées ou ses façons de penser ou ses façons d'agir, pour être certain qu'il soit capable de mener une église, puisqu'il est assisté d'un conseil presbytéral. Et une fois qu'il est reconnu pasteur, la robe qu'il porte est un signe universitaire. Mais il n'est pas obligé de la porter. Voilà. C'est une reconnaissance d'un parcours universitaire uniquement. C'est le pasteur qui officie le culte. Normalement, quand un pasteur est installé dans une paroisse, et quand il n'y a pas de pasteur, ce peut être des laïcs
qui reçoivent une délégation,
qui reçoivent un mandat de desserte auprès de l'autorité, puisque chaque paroisse est une association cultuelle, loi 1905, locale. Alors pour ce faire, dans mon cas, j'ai eu la possibilité de formation de prédicateur laïque à l'Institut protestant de théologie à Paris. Et puis, ma foi, on apprend. Et puis, comme disait Chantal tout à l'heure, il y a des liturgies. Et puis, à nous de rédiger, de trouver des prières et de rédiger des prédications. Voilà.
Oui, vous dites « il » en parlant du pasteur, mais moi, je note qu'il y a de plus en plus de femmes pasteurs.
Voilà.
Oui.
Absolument. Moi, je dis pasteur. Maintenant, les gens disent avec la féminisation, enfin la parité, ce que vous voulez, on se dit pasteuse ou pasteuresse. Pour moi, un pasteur. Mais effectivement, il y a de plus en plus de femmes. C'est très clair. C'est très clair. Et de couples même. Il peut y avoir un couple, une femme pasteur dans un lieu et son mari. Surtout en région parisienne, puisque en région parisienne, c'est plus facile quand même de sauter avec la carte Navigo ou je sais pas quoi, mais tandis que nous, à Dreux-Marsoceaux, notre paroisse quand même dessert 160 communes. Donc ça va assez loin. Voilà.
Moi, j'aurais une question concernant le statut du pasteur. Vous avez parlé du parcours universitaire, donc cette année, il est reconnu par la robe qu'il revêt lors du sermon. Et à l'inverse du prêtre, j'ai cru comprendre qu'il pouvait aussi se marier.
Bien sûr, un pasteur peut se marier, bien sûr. On a connu dans notre paroisse des célibataires, mais bien entendu, il peut être marié, avoir des enfants, bien sûr.
Comme les imams.
Comme les imams, oui, tout à fait.
Et chez les orthodoxes, ils doivent être mariés.
D'accord, c'est une obligation.
C'est une obligation.
D'accord.
Pas de célibat chez les nôtres.
Des questions à Chantal, peut-être ?
Alors, oui, moi, je voudrais que vous nous précisiez les tenues des prêtres dans les temps d'église catholique.
Oui.
Les prêtres revêtent des étoles de différentes couleurs suivant les temps d'église.
Suivant, ça rejoint les temps liturgiques et les fêtes. Le vert, c'est ce qu'on appelle dans les temps ordinaires.
La majeure partie du temps.
Oui, la majeure partie du temps d'ailleurs. Tout ce qui est pendant le temps du carême avant Pâques, qui est un temps de pénitence, entre guillemets, je dirais. Et puis tout ce qui est célébration autour des enterrements, c'est le violet. Avant, c'était le noir, mais ça fait très longtemps.
Le noir pour les enterrements, mais le violet pour les temps de carême.
Voilà. Le rouge, c'est pour toutes les célébrations. L'entrée dans la Semaine Sainte, le temps des rameaux, c'est le rouge, parce que c'est pour annoncer que le Christ va vers sa passion. Et le rouge est aussi porté pour tout ce qui est célébration de martyrs, de saints qui ont subi le martyre.
Le jaune
et le jaune et le blanc, c'est le temps...
Les grandes fêtes.
Pâques, en particulier... Voilà.
J'allais poser la question pour l'Assomption. Hein, quelle est la couleur?
Pour l'Assomption, je pense que blanc. C'est blanc.
C'est blanc.
Blanc ou... Maintenant, c'est paille souvent. Hein. C'est pas le blanc-blanc, c'est souvent un peu...
Crème.
Les protestants, l'Assomption, ça parle ou c'est quelque chose qui n'est pas célébré?
Si, il y a un culte de l'Assomption, absolument, tout à fait reconnu. Mais les protestants ne vouent pas de culte, ne reconnaissent pas de saints. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de culte envers Marie. Marie est la mère de Jésus. Voilà, on les respectait, mais il n'y a pas de prière particulière pour Marie.
Donc alors pour vous, Dieu seul est saint.
Absolument.
Alors que chez les musulmans, il y a quand même toute une sourate du Coran qui est dédiée à Marie, Maryam, oui. Mère de Jésus.
Oui.
C'est une femme très, très importante, puisque en islam, tous les prophètes sont reconnus, et notamment Jésus-Christ qui est reconnu en tant que prophète très important. Et donc Marie qui l'a portée est très, très importante. Pour lui dédier une sourate du Coran, c'est pour dire.
D'ailleurs, chez les catholiques, il y a beaucoup d'églises qui s'appellent Notre-Dame.
Oui, c'est vrai.
Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, etc. Et puis des lieux de pèlerinage, c'est la Vierge qui a apparu à des enfants ou à des personnes, et on va en pèlerinage pour vénérer, au travers de Marie, pour vénérer son Fils. Parce qu'on le dit toujours, Marie est le trône du Fils de Jésus, etc.
Oui, donc en fait, quand on va en pèlerinage, on fête Dieu.
On fête Dieu, oui, c'est ça.
Et les lieux de pèlerinage connus catholiques, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a Lourdes, y en a-t-il d'autres encore?
Chartres, Paris, mais toutes les Notre-Dame de la Salette,
Et puis,
il y a de nombreux lieux.
Oui, il y en a.
Et puis, alors je ne sais pas si on peut appeler ça les pèlerinages, mais dans le cadre de notre association patrimoine, on avait vu qu'il y avait un circuit des mariettes, des petits oratoires, c'était du côté des îles, sur Eure, et puis je ne sais plus où. Enfin, il y a un parcours d'une centaine de kilomètres, uniquement de petites mariettes, on peut, s'arrêter et prier.
On peut faire la tournée des mariettes dans certaines régions, on peut faire la tournée des calvaires en Bretagne, on peut faire...
Oui.
En fait, ce sont des édifices religieux qui ont une fonction de rappel, puisque antérieurement, dans la vie chrétienne quotidienne, il y avait notamment des processions. Dès qu'il y avait une mauvaise récolte, eh bien, on allait processionner. Il y avait les rogations, c'était une des processions pour demander à Dieu le temps... qui soit clément pour les récoltes. Donc on allait faire un tour Alors à Dreux, eh bien à Dreux, on allait processionner derrière Sainte-Ève pour demander le beau temps ou le temps favorable.
Et il a souligné que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État avait maintenu l'autorisation des processions.
Oui, et assez curieusement d'ailleurs, un certain nombre se faisaient plus ou moins.
Parce qu'effectivement, la loi de séparation de 1905, elle a été très vite appliquée parmi les trois religions existantes à l'époque, les protestants et les juifs, qui se sont constitués immédiatement, puisque première loi, donc il y en a eu plusieurs autres. Il y en a eu en 1907 et en 1908, pour assouplir leur gestion, si je puis dire. Et ils ne se sont pas créés, je crois, enfin vous m'arrêterez si je me trompe, mais non pas en association cultuelle, mais en diocèse, regroupant un secteur beaucoup plus important, paroisse.
Non, si je me suis permis de faire cette remarque, c'est parce que beaucoup de gens pensent que la laïcité en France, c'est une espèce de carcan, alors qu'en fait, c'est une loi que personnellement je trouve salutaire, puisqu'elle garantit à tout le monde la liberté de conscience, la liberté de culte, et même des manifestations extérieures. C'est pour ça que un débat qui a lieu chez beaucoup de non-croyants, mais peut-être aussi de croyants, c'est qu'est-ce que c'est les signes extérieurs, qu'est-ce que c'est que le privé et le public. Dès le début, en fait, il y a des éléments religieux qui sont par la loi admis dans le public. C'est le cas des processions, et même il y avait, alors je sais pas comment on appelait ça, moi, des espèces
de dais sous lesquels on processionnait, oui. En effet, oui.
Oui, et puis des grandes arches avec des fleurs au moment de la fête,
au moment de la fête de Dieu,
oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Moi, je l'ai connu enfant, ça. Hein.
Et ça me fait penser à un débat par rapport à la crèche, aux crèches qui vont être mises dans les lieux publics.
Crèche de Noël.
Et ça fait débat actuellement, là, ils sont en train d'encore... Alors, j'ai entendu un journaliste qui disait, on a d'autres choses à parler que ça, franchement, on ne va pas se battre mais c'est vrai, effectivement. Moi, je ressens actuellement qu'il y a une espèce de durcissement et, je dirais, une laïcité mal comprise. Il y en a certains qui deviendraient entre guillemets, laïcs et qui diraient plus d'objets extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on va supprimer, effectivement? Est-ce qu'il faut supprimer les clochers? Est-ce qu'il faut supprimer les croix, les calvaires? Est-ce qu'il faut supprimer les calvaires qui sont dans l'espace public, qui sont sur les routes, etc.? Est-ce qu'il faut les retirer
Non, pas du tout, mais je crois que cette laïcité dont on parle tant, ça deviendrait presque une nouvelle religion, quelque part. Alors que non, justement, comme disait Jean-Pierre, c'est la liberté de chacun avoir sa foi, de l'exprimer, sans pour autant gêner l'autre, au contraire.
Ou bien de ne pas en avoir,
bien entendu.
Oui, je pense que ce serait un instrument, un outil, justement, pour le vivre ensemble, mieux vivre ensemble. En harmonie les uns à côté des autres, ou avec les autres mieux qu'à côté.
Est-ce qu'il y a des réactions dans votre communauté sur l'installation des crèches dans des lieux publics, par exemple, ou dans des écoles tout au moins?
À ma connaissance, non. Non, il n'y a pas de réticence. Au contraire, j'allais dire, certains signes pose problème sur la voie publique et donc on défend, on essaie du mieux qu'on peut notre point de vue. On ne va pas pointer du doigt certains autres signes des communautés, de nos concitoyens, nos amis, nos frères. Ce serait vraiment malvenu. Donc non, chacun, pour nous, pour la majorité en tout cas des musulmans, ceux que je connais, ils sont pour que chacun puisse s'exprimer qu'il croit, qu'il ne croit pas, dans le respect des uns et des autres.
En tout cas, se dire ce à quoi on croit et quelles sont les questions que l'on se pose les uns vis-à-vis des autres me paraît tout à fait salutaire. Et c'est le but de cette émission. Donc je dis à nos auditeurs, bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. De mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs. S'entraider, aimer, surtout s'aimer.